Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent : Rabbi, maître, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'aveugle il soit né ? Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents, mais c'est pour qu'en lui se manifestent les œuvres de Dieu. Tant qu'il fait jour, il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où nul ne peut travailler. Tandis que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, en enduisit les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé, c'est-à-dire à la piscine de l'envoyé. » L'aveugle s'en alla, se lava, et il revint voyant clair. Les voisins et les gens habitués à le voir mendier auparavant dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait toujours là à mendier ?» Les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent alors, comment donc tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit, celui qu'on appelle Jésus a fait de la boue, m'en a enduit les yeux et m'a dit, va te laver à Siloé. Alors je suis parti, je me suis lavé et j'ai vu clair. Ils lui dirent, « Où est-il ? » Il répondit, « Je ne sais. » On amène aux pharisiens l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc à leur tour comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Certains des pharisiens disaient, « Cet homme ne vient pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le sabbat. » D'autres répliquaient, « Comment un pécheur pourrait-il faire des miracles pareils ?» Ils étaient divisés. Alors ils s'adressèrent encore une fois à l'aveugle, « Et toi, que dis-tu de lui, de ce qui t'a ouvert les yeux ?» L'homme répondit, « C'est un prophète. » Cependant, les Juifs ne voulurent pas croire que cet homme eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue avant d'avoir convoqué ses parents. Ils leur demandèrent, « Cet homme est-il bien votre fils, dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'il voit maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle, mais comment il y voit maintenant et qui lui a ouvert les yeux, nous n'en savons rien. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » C'est par crainte des Juifs que ses parents parlèrent ainsi, car les Juifs s'étaient déjà mis d'accord, enfin les princes des Juifs, les chefs des Juifs, s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue quiconque reconnaîtrait Jésus pour le Christ. C'est pour cette raison que les parents de l'ancien aveugle avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Les chefs des Juifs le convoquèrent donc une seconde fois et lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Si c'est un pécheur, je ne sais. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et qu'à présent, j'y vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre une seconde fois? Auriez-vous envie de devenir ses disciples, vous aussi ?» Ils l'accablèrent d'injures, disant, « Toi, tu es disciple de cet homme, nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé. » mais lui, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme répondit, « C'est là justement la chose étonnante, que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Nous savons bien que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais que si un homme l'honore et accomplit sa volonté, celui-là, il l'exauce. Jamais on n'a ouï dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « De naissance, tu n'es que péché, et tu nous fais la leçon. » Et ils le chassèrent au dehors. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Le rencontrant, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il lui répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant Jésus.
Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. În vremea aceea, trecând Iisus, a văzut pe un om orb din naștere, atunci ucenicii lui l-au întrebat pe el zicând, Învățătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus le-a răspuns, nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci s-a născut orb ca să se arate întrânsul lucrurile lui Dumnezeu. Trebuie să fac până este ziua lucrurile celui ce m-a trimis pe mine, căci vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Câte vreme sunt în lume, eu sunt lumina lumii. După ce a zis acestea, a scuipat jos și a făcut tine din scuipat și a uns cu tine ochii orbului. Apoi a zis, mergi și de-te spală la izvorul Siloamului care se tâlcuiește trimis. Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. Iar vecinii și cei ce-l văzuseră mai înainte, că era cerșetor, se întrebau, nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau că acesta este, iar alții ziceau că seamănă cu el. Dar el zicea, eu sunt. Deci l-au întrebat, atunci cum s-au deschis ochii tăi? El le-a răspuns și a zis, omul care se numește Iisus a făcut tine și a uns ochii mei. Apoi mi-a zis, mergi la izvorul Siloamului și te spală. Deci, mergând și spălându-mă, am dobândit vederea. L-a mai întrebat, unde este acela? Nu știu, le-a răspuns orb. L-au dus la farisei pe cel ce mai înainte fusese orb și era într-o zi de sâmbătă, când a făcut Iisus tine și a deschis ochii orbului. Deci, din nou l-au întrebat fariseii cum a dobândit vederea. El le-a răspuns, tine a pus pe ochii mei și m-am spălat și văd. Deci, unii dintre farisei ziceau, acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu păzește ziua sâmbetei. Dar alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă minuni ca acestea? Și astfel era dezbinare între ei. Deci iarăși l-au întrebat pe cel ce fusese orb, tu ce zici despre el pentru că ți-a deschis ochii tăi? Iar el a răspuns că este proroc. Dar iudeii n-au crezut despre el că a fost orb și și-a căpătat vederea, până ce n-au chemat pe părinții celui vindecat de orbire. Așadar i-au întrebat și le-au zis, acesta este fiul vostru despre care voi ziceți că s-a născut orb? Atunci părinții lui au răspuns și le-au zis, știm că acesta este fiul nostru și că el s-a născut orb, dar cum vede el acum, noi nu știm. Sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu știm. Este în vârstă, întrebați-l pe dânsul. El singur va putea spune despre sine. Acestea le-au zis părinții lui pentru că se temeau de iudei, căci mai mari iudeii o să sfătuiseră acum că de-l va mărturisi cineva pe Iisus că este Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea părinții lui au zis, este în vârstă, întrebați-l pe dânsul. Deci farisei au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis, dă slavă lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este păcătos. Cel ce fusese însă orb a răspuns, de este păcătos nu știu, eu una știu, că eram orb și acum văd. Deci l-au întrebat iarăși, ce ți-a făcut? Cum a deschis ochii tăi? El le-a răspuns, acum v-am spus vouă și n-ați auzit. De ce vreți să mai auziți încă o dată? Cumva vreți să vă faceți și voi ucenici ai lui? Atunci mai mari iudeilor l-au ocărât și i-au zis, tu ești ucenicul lui Noi suntem ucenicii lui Moise. Noi știm că Dumnezeu a grăit cu Moise, iar pe acesta noi nu știm de unde este. Răspuns a omul și le-a zis, tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este și totuși el a deschis ochii mei. Și noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii vreunui orb din naștere. Dacă n-ar fi acesta de la Dumnezeu, nimic n-ar fi putut face. Ei însă au răspuns și i-au zis, în păcate tu te-ai născut întreg și în păcate ai rămas și tu ne înveți pe noi și l-au dat afară. A auzit Iisus că l-a dat afară și găsindu-l, l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Cel ce fusese orb a răspuns și a întrebat, cine este, Doamne, ca să cred în Trânsul? Iisus i-a spus, l-ai văzut? Că cel care vorbește cu tine, acela este. Atunci el a grăit, crede, Doamne, și s-a închinat lui.
Slavă-ți, Doamne, slavă-ți!
Saint-Esprit. Amen. C'est ça, quand on dit du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en principe, après ça, il y a Amen. Ça veut dire oui, d'accord. Alors si vous ne dites pas oui, d'accord, on arrête. C'est très important. Le mot Amen dans l'Église, c'est la responsabilité des fidèles, des baptisés, que vous êtes. Et dans d'autres moments de la liturgie, il y a à dire, ça en attend, vous disiez Amen ou Amin, vous préférez, mais c'est pareil. Hein. Amen ou Amin, mais vous devez dire ça parce que ça veut dire que vous participez à ce qui est dit ou fait, pas seulement que vous êtes d'accord passivement, mais que vous êtes activement participant et activement concélébrant. Et activement prêtre et prêtresse de la nouvelle alliance. Prêtre et prêtresse du Christ. Hein? Romain, on parle de ça, on dit Preotia, Preotia lui Christos. Et dans Preotia lui Christos est exprimata pentru cuvânt Amin. D'aceea, când răspunde la vorba preotului sau episcopului cu Amin, exprimați preoției voastre a botezați. Înțelegeți? Foarte important. Deuxième, j'aurais dû dire en premier, la chose la plus importante, c'est le Christ est ressuscité. Christos a une viat. Ça, c'est la chose la plus importante. La plus importante, et c'est d'autant plus important que aujourd'hui nous disons, chantons les chants de la résurrection, en tout cas sous cette forme-là, pour la dernière fois avant un an, hein, puisque c'est le dernier dimanche, ensuite ce sera l'Ascension, jeudi. Et dimanche prochain, le dimanche après l'Ascension, on ne chante plus « Christ est ressuscité », on ne chante plus « Christos est enviat », c'est terminé jusqu'à un an. Donc ce chant-là, cette affirmation-là, « le Christ est ressuscité », nous la prononçons déjà avec nostalgie, mais peut-être, comme vous savez, ces choses ou ces paroles qu'on dit ou qu'on fait, pour la première fois ou pour la dernière fois, on les dit en sentant tout le caractère infiniment précieux. Et il faut savoir que ces paroles-là, Christ est ressuscité, et oui, ce chant-là, par lequel commencent nos offices en temps pascal, résume, et vous le savez bien, résume toute la foi chrétienne, tout l'engagement spirituel et charismatique des chrétiens. Et c'est pourquoi nous allons avec regret ne plus la dire comme un grand jeûne, comme si nous allons jeûner pendant un an de cette parole-là et attendre avec impatience de pouvoir la dire encore. Toutefois, vous savez que chaque dimanche est Pâques. Chaque dimanche est la célébration pascale. Donc nous nous consolons chaque dimanche. Nous ne chantons pas le Christ est ressuscité, mais nous confessons activement la résurrection dans les prières et les chants de l'Église, dans la mesure où nous les entendons, où nous les comprenons. Mais plus les chantres expriment ces prières, les tropères avec clarté et avec intelligibilité, plus nous participons à cette confession de la résurrection. Le premier tropère du dimanche, le premier tropère est toujours un tropère de la résurrection. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à dire? Troisième chose que je veux vous dire, oui, c'était la question. Alors, on entend cet évangile de l'aveugle né. Pourquoi est-ce qu'on lit cet évangile-là aujourd'hui? C'est bizarre, au fond. Pourquoi? Je ne sais pas si vous posez la question quelquefois. Pourquoi est-ce qu'on lit tel ou tel évangile? C'est parce qu'on l'a ouvert comme ça, la page. Est-ce que... Pour quelle raison? D'où est-ce que ça vient? Alors vous devez savoir, vous savez très bien, excusez-moi, vous savez très bien qu'il y a une tradition derrière ces lectures, qu'il y a l'action du Saint-Esprit dans l'Église, très important, l'action du Saint-Esprit dans l'Église qui a guidé le choix fait par les saints-pères pour les lectures. Mais suivant les traditions locales, les lectures sont quelquefois différentes. Donc il y a dans l'Église orthodoxe, donc gréco-slave ou gréco-palestinienne, syro-palestinienne, puisque nous avons hérité tout cela de la tradition palestinienne, il y a des choix qui ont été faits et qui sont ceux-là. Le même évangile, il faut que vous sachiez, dans la tradition liturgique occidentale latine d'autrefois, il y a longtemps que nos amis ont abandonné ça, malheureusement, cette lecture était faite pendant le carême, une des dernières semaines de carême, et elle était lue pour les catéchumènes qui se préparaient au baptême, à la sainte illumination. Vous voyez, c'est intéressant. C'était un choix, un autre choix, mais qui avait un motif pédagogique. Et nous, dans notre tradition liturgique, donc palestino-syrienne, gréco-slave, orthodoxe, nous avons cette lecture au dernier dimanche de Pentecôte. Pourquoi? Et je pense que la meilleure façon de répondre à ce genre de questions, d'abord, ce qui est bien, c'est de se poser la question. C'est déjà extraordinaire que quelqu'un se pose des questions pareilles, qu'on soit un peu actif dans l'Église et qu'on se dit, tiens, pourquoi ceci, pourquoi cela, qu'est-ce que ça veut dire, quel sens ça a? C'est déjà un signe de bonne santé spirituelle. Donc, c'est la première chose. Et ensuite, la réponse à cela, c'est toujours dans le contexte liturgique que nous la cherchons. C'est-à-dire, cette parole que nous avons entendue deux fois, cette longue parole, chapitre 9, versets 1 à 38, presque 40 versets. Et il en restait deux, je ne sais pas pourquoi on ne les lit pas, ça aurait fait 40, peut-être beaucoup, de 38, c'est peut-être suffisant. Mais donc, presque tout le chapitre 9, nous l'avons entendu deux fois. Et donc, si nous l'avons entendu, c'est à cause du contexte dans lequel on est, c'est-à-dire la préparation à la Pentecôte. La préparation à la descente du Saint-Esprit dans l'Église. C'est un évangile qui est lu en relation avec les dons du Saint-Esprit. Vous voyez, comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, vous relirez peut-être à la maison, tout à l'heure, c'est ce chapitre, on ne peut pas le relire une troisième fois. Vous l'avez entendu deux fois, c'est déjà pas mal. Vous le relirez, vous essayez de chercher ça. Qu'est-ce qui se rapporte au Saint-Esprit dans cet évangile? En quoi est-ce que ça a une relation avec l'action du Saint-Esprit? En quoi? Et donc, en quoi est-ce que ça nous concerne, nous qui voulons vivre selon l'Esprit? Parce que c'est le but de la vie chrétienne, c'est de vivre dans l'Esprit Saint, dans l'esprit du Christ, dans l'esprit du Père qui est donné par le Christ, d'avoir une vie, en roumain vous dites Vias Duhovnicharsk, il s'appelle Vias Dup Suntul Du. Et en français, alors on a un mot qui ne veut rien dire du tout, on dit une vie spirituelle. Alors ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Français parmi vous, mais vous devez savoir que cette expression n'a aucune signification particulière. Il faudrait oser dire une vie pneumatique. Mais quand je dis ça, tout le monde rit parce que vous pensez à des choses en caoutchouc. Non, pneuma. Pneuma en grec, c'est l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu. Et vie spirituelle, ça ne veut rien dire du tout. Alors que vie pneumatique ou vie charismatique, si vous voulez, ça passe peut-être mieux que pneumatique. Ça veut dire quelque chose. Via Sadovnichask, Sarvonima Francesa, vie pneumatique ou charismatique, ça veut dire une vie où tu es justement gonflé de l'Esprit Saint, rempli de l'Esprit Saint, gros de l'Esprit Saint. Justement comme c'est, pourquoi pas, prenons l'image. Comme ces ballons en caoutchouc qu'on gonfle, et on les gonfle, ils deviennent. Vous avez vu les enfants, des petits ballons minuscules comme ça qu'on achète, pas très cher chez les commerçants. Moi, je n'arrive jamais à les gonfler, c'est tellement dur. Bon, enfin, je demande à quelqu'un d'autre, et on les gonfle, ils deviennent énormes. Si tu les gonfles trop, ils éclatent. Hein, là, tu trouves un équilibre. Je ne sais pas si les seins éclatent, mais les seins sont effectivement gonflés de la vie du Saint-Esprit, gros de la vie du Saint-Esprit. Il y a quelque chose d'immense dans la vie selon l'Esprit Saint. Et pour se revenir à l'Évangile, puis je m'arrête après parce que ça fait déjà beaucoup, retenez ça, c'est déjà pas mal. Dans l'Évangile que nous venons d'entendre, il est question de cela. Il est question de cela. La place du Saint-Esprit, du pneuma de Dieu, du souffle de Dieu, du souffle créateur, vivifiant, et illuminant, et sanctifiant, et déifiant, et divinisant. La place de cet esprit dans l'Évangile, elle est donnée dans plusieurs endroits. Premièrement, par la personne du Christ. Là, quand même. Le Christ est le premier, il est celui qui est rempli du Saint-Esprit. Le Christ est immense. Il est gonflé au-delà des limites possibles. Vous voyez, c'est l'immensité du Christ. La totalité du Christ, l'universalité du Christ, la plénitude du Christ. Et bien cette plénitude, c'est la plénitude de l'Esprit en lui. Je ne sais pas si ce que je dis est très clair, en fait. Enfin, pour moi, c'est clair pour le moment. Hein? Donc, la plénitude de l'Esprit dans le Christ. Le Christ est toujours rempli du Saint-Esprit, mais rempli à déborder. À déborder. Peut-être pas à éclater, mais à déborder. Débordé. Et quand même, regardez, le tombeau vide de la résurrection, c'est quelque chose qui a éclaté, qui a explosé. Quand les femmes sont venues le matin très tôt, au lever du jour, quand elles sont venues, elles ont trouvé la pierre enlevée. Or, comme elles disent, la pierre était importable, cette pierre-là. C'est une pierre que tu ne peux pas porter, on la roulait. Et elle était très grande, comme elle dit. Donc, ça, c'est une force très particulière. Donc, or, cette pierre était enlevée et personne n'était venu avant que les femmes ne viennent. Donc, on voit bien que le tombeau vide est une manifestation d'une explosion, d'une puissance extraordinaire. Là, un des signes de l'esprit est justement le tombeau vide. Non pas qu'il soit vide parce qu'il est rempli de la présence du Christ, mais le fait qu'il ait été ouvert comme ça, explosé, éclaté par la puissance de l'Esprit. Donc le Christ lui-même est rempli du Saint-Esprit. Et tous les miracles qu'il fait, par exemple aujourd'hui, alors comme dit l'aveugle, c'est assez drôle l'Évangile, il y a des choses assez humoristiques, c'est amusant, l'aveugle qui dit, alors ça on n'a jamais vu ça, hein, que quelqu'un fasse voir un aveugle de naissance, on n'a jamais vu ça. Il est un personnage très concret, un personnage dans un roman, il est très sympathique cet homme-là. Il dit, écoutez, moi je ne sais pas, hein. Il m'a dit, il est là-bas, il m'a dit, me laver les yeux, je suis revenu, je vois, c'est tout. C'est un homme très simple. Et voilà, il dit ça, vous voyez. Il dit, ça c'est pas possible. C'est pas possible de faire voir quelqu'un qui est aveugle de naissance. On fait des opérations sur des gens qui sont devenus aveugles après, il y a des tas de choses qui se font, mais médicalement, il y a des médecins parmi vous, tu ne peux pas faire voir quelqu'un qui est né aveugle. Ça, c'est possible. Donc, ça, un miracle comme ça, comme ressusciter Lazare au quatrième jour, n'est pas possible. Tu peux ranimer quelqu'un au bout de 3 jours, à peu près, ça peut se faire. Même les prophètes ont fait ça. Mais le quatrième jour, ce n'est pas possible. Tu peux ressusciter quelqu'un d'autre, mais te ressusciter toi-même du tombeau, ça, c'est pas possible. Vous voyez ? Donc, il y a des choses qui ne sont pas possibles humainement et que le Christ accomplit. Vous voyez ? Et ça, c'est le signe de l'Esprit du Père en lui. Le signe de sa divinité, mais ce n'est pas une divinité abstraite. C'est une divinité qui est vivifiée, remplie aussi du Saint-Esprit, une divinité vivifiante, une divinité créatrice, une divinité sainte. Donc la première manifestation du Saint-Esprit dans l'Évangile, c'est le Christ lui-même. C'est le Christ lui-même. Ensuite, il y a une autre manifestation du Saint-Esprit dans l'Évangile qui est l'aveugle. Pas seulement parce qu'il est guéri, c'est pas ça tellement. Ça, c'est des manifestations de l'Esprit du côté du Christ. C'est le Christ qui a, par la puissance du Saint-Esprit, donné... Il n'a pas guéri. Il n'était pas malade, cet homme-là. Il ne voyait pas. Il a donné la vue. Il n'a pas rendu la vue. C'est une très mauvaise traduction. Il n'a pas rendu la vue puisqu'il n'a pas vu. Il a donné la vue. Et ça, c'est une manifestation du Saint-Esprit du côté du Christ. Et du côté de cet homme, dont on ne connaît pas le nom, malheureusement, j'aimerais beaucoup savoir comment il s'appelle, du côté de cet homme, la manifestation du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est ? C'est de dire « je crois ». C'est fou, ça, hein ? Dis. C'est un homme extraordinaire, je l'aime beaucoup, cet aveugle. Parce qu'il dit « mais moi, je veux bien croire, c'est qui est-il que je crois en lui ?» Oui, il est de bonne volonté. Et quand le Christ lui dit « tu le vois, c'est lui qui te parle », c'est un moment impressionnant, impressionnant. On ose à peine lire ces paroles-là, tellement c'est grand. Vous voyez le Christ, vous voyez comme il est en majesté sur l'icône, c'est plus ou moins fort, mais quelquefois sur l'icône, le Christ, il est inregardable, tellement il est grand, tellement il est majestueux, tellement il est seigneurial, tellement il est Dieu, tellement il est manifestement le Fils de Dieu. Et il dit ça, ce Christ-là, il est mais encore plus beau que cette icône, encore plus grand que cette icône, encore plus lumineux que cette icône, encore plus vivant que cette icône, encore plus icône que cette icône. Il dit ça à cet homme, il dit, tu le vois, c'est celui qui te parle. Dieu, c'est impressionnant quand même. Et l'autre, avec le Saint-Esprit, il dit, je crois. Ça, c'est la manifestation du Saint-Esprit, de l'Esprit de Pentecôte, du côté de l'être humain, du côté de la personne humaine. Vraiment une personne humaine très simple. On ne connaît même pas son nom, c'est fou quand même. Oui, des gens tellement simples. Il y a des gens, on regarde le larron sur la croix, le bon larron, qui dit au Christ, dans ton royaume, tu viens toi de moi. On connaît son nom quand même. Le Dismas. Lazare, on va une étage, donc on connaît le nom. Et puis il y a dans l'Évangile des gens comme ça, dont on ne connaît pas le nom. Tellement ils sont saints, tellement ils sont petits, et tellement ils sont comme nous, et tellement ils sont l'un d'entre nous. Voilà, on ne connaît pas. Et dans cet homme tout simple, très pur, vous voyez, qui demande qu'à croire, on lui dit il va se laver, il revient. Des gens comme ça, très mobile, très libre en fait. Très bon, je pense, très pur, très simple, et courageux aussi, c'est-à-dire quand les gens lui posent des questions, il leur répond, il leur dit des choses très drôles. « Bien, voulez-vous aussi être ici ?» Très beau, parce que je n'ai pas envie du tout d'être ici, bien sûr. Mais vous voyez, cette simplicité de cet homme, son naturel, son courage, ça montre sa pureté, son innocence. Et bien lui, en lui, se manifeste le don du Saint-Esprit. « Crois que Jésus est Seigneur. » Croire que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'est le grand miracle. Et c'est pour ça que certains pères de l'Église, on va dire saint tel, etc., disaient personne ne peut croire que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu sans la grâce du Saint-Esprit. Ou inversement, si on veut avoir un signe du Saint-Esprit, une preuve de l'Esprit, Eh bien, c'est la foi dans, mais ce n'est pas n'importe quelle foi. Il y a des gens qui disent « je crois en Dieu ». Bon, d'accord, pour les musulmans aussi, ils croient en Dieu, c'est un problème. Ou « je crois, je ne comprends rien du tout, en fait ». Mais croire dans le Christ, que le Christ est le Fils de Dieu, que le Christ est ressuscité des morts, etc., etc., ça, c'est quelque chose d'absolument miraculeux, vous voyez. Donc, il y a deux miracles dans cet évangile. Je vais m'arrêter. Il y a deux miracles dans cet évangile. Le premier, qui est l'action opérée par le Christ, rempli du Saint-Esprit, manifestant qu'il est lui-même, si vous voulez, l'icône même de la Pentecôte, en quelque sorte, le Christ. Qu'il est celui en qui les dons parfaits et absolus et complets du Saint-Esprit se sont manifestés. C'est étonnant. Donc, premier miracle, la guérison par le Saint-Esprit et par le Christ, par la parole du Christ, le geste du Christ et l'onction du Christ, le miracle, le sacrement du Christ, le sacrement de l'Église, premier miracle. Et deuxième miracle, le miracle de la foi. Donc, vous voyez, on conclut là-dessus, mais essayez de vous appliquer ça à vous-même, parce que ça pour moi, que je m'applique ça à moi-même. Qu'est-ce que j'attends du Saint-Esprit dans l'Église? Qu'est-ce que j'attends d'une vie dans l'Église qui serait une vie selon l'Esprit, une vie pneumatique, une vie charismatique? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que ce serait pour moi vraiment être chrétien? Qu'est-ce que ce serait pour moi vraiment connaître l'expérience des saints? Il y a beaucoup de saints qui ont fait des miracles, justement. Vous voyez? En qui s'est manifestée la grâce du Saint-Esprit? Qu'est-ce que ce serait pour moi ici, les gens qui sont, nous qui sommes ici, qu'est-ce que ce serait pour chacun d'entre nous? Bien, ce serait d'un côté, effectivement, faire des miracles autour de soi, mais surtout, accomplir tous les jours le grand miracle de croire en Jésus-Christ. En fait, je pense que le deuxième, pour nous, pour le Christ, c'est dans cet ordre-là, l'ordre qu'il a suivi dans l'Évangile, pour nous, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que le premier miracle à accomplir pour chacun d'entre nous, moi le premier, c'est vraiment de croire absolument en Jésus-Christ. Absolument. Sans ombre, sans discussion, sans appui, sans m'appuyer sur des raisonnements humains. De manière absolue. La foi absolue. La confiance absolue. Ça, ça vous dit quelque chose? Sinon, on a confiance un petit peu comme ça, oui. Je confiance un peu, mais bon. Mais une confiance absolue, totale. Ça serait le premier miracle qui pourrait s'accomplir dans ma vie. Et comment? Si je ne croyais pas en Jésus-Christ, je ne serais pas venu ici, il y a 6 heures de train pour venir vous parler. Quand même, il y a un début de foi chez moi, mais peut-être que je peux m'interroger et me demander si je suis à la plénitude de la foi, si une foi absolument pure. Vous voyez, je peux peut-être progresser dans cette vie du Saint-Esprit qui me donne en Jésus-Christ une foi absolue, totale, sans ombre. Et ça, c'est le premier. Et le deuxième miracle, celui qui croit de cette façon-là, effectivement, fera d'autres miracles. D'autres miracles. Et ça, nous devons aspirer à ça. Il ne faut pas que nous disions, oh, les miracles, c'est bon pour les saints, moi, je ne suis pas. Si tous ici, les enfants, les bébés, dès que vous avez reçu la grâce du Saint-Esprit au baptême, dès que vous confessez la vraie foi, dès que vous confessez en plénitude et totalement cette foi en Jésus-Christ, nous avons la capacité de manifester les œuvres de Dieu autour de nous. Comprenez ça, c'est ça votre rôle, notre rôle de chrétien dans le monde, dans la société, c'est de manifester les œuvres de Dieu, de manifester la grâce du Saint-Esprit à l'œuvre dans ses membres. C'est très important, c'est très beau. Et c'est pour ça que vous êtes venus ce matin, parce que vous êtes des gens extraordinaires, vous êtes venus à l'Église, vous êtes venus participer, vous êtes venus célébrer. C'est magnifique que vous soyez là. Si vous savez, regardez comme il vous regarde, le Seigneur, il vous voit, il voit son peuple qui est là. Mais le peuple que le Christ voit en vos personnes, c'est un peuple capable de miracles. Vous êtes capable de miracles. Nous sommes capables de miracles, tous, chacun d'entre nous. Mais à condition de répondre à cet appel à vivre une vie vraiment selon l'Esprit. Vraiment selon l'Esprit. Et pour terminer encore, je n'arrête pas de terminer, vous pensez ça, vous savez, les fins sont des fins qui ne se finissent pas. Hein. Pour terminer encore, la piste qui nous a été donnée pour aller vers une vie en plénitude du Saint-Esprit, c'est la prière de louange. Tout le carême, tout le temps de Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, nous avons répété cette prière-là. Gloire à ta sainte résurrection, Seigneur Jésus, gloire à toi. Dans tous les offices qui sont dits tous les jours, l'office de matine par exemple. Donc, probablement, j'ai vu ça chez dans un écrit récemment, il dit ça. Il dit en fait qu'une des. La piste principale pour acquérir cette vie dans l'Esprit Saint, pour connaître la vie totale dans le Saint-Esprit, c'est en fait le fait de louer, de glorifier. Hein, vous connaissez ça en romain, à cela vie, et le Méséo. Oui, c'est la vie, à Marie, et le Méséo. Et c'est Kalea de Bindiri. Je ne sais pas si très bien, traduction simultanée. Hein? Donc ça, on peut garder ça, garder cet esprit de louange. Par exemple, là, aujourd'hui, c'est « Gloire à ta sainte résurrection, Seigneur Jésus, gloire à toi ». Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'Esprit Saint va venir dans cet espace de louange. Et à partir de jeudi, ça va être « Gloire à ta sainte Ascension, ta divine, gloire à ta divine ascension, Seigneur Jésus, gloire à toi. » C'est la fête de la mort. C'est pareil, dans cet espace de louange va venir le Saint-Esprit. Tout le temps, trouver des prières de louange comme ça, issues du temps liturgique dans lequel on est, et l'Esprit Saint descend dans cet espace que nous lui faisons. Voilà. On va continuer la célébration, et que chacun d'entre nous, moi le premier, qu'on ait à l'intérieur de son cœur, pendant la célébration, une joie très grande, un dynamisme intérieur, un enthousiasme intérieur, pas un effort, voyez, mais une pêche intérieure, voyez, dans la prière, dans tous les mots de la prière qu'on va entendre. Les dire intérieurement, les écouter, et intérieurement les redire avec puissance, avec enthousiasme, pas être passif, vous voyez, être actif intérieurement pendant la divinité. Le Christ est ressuscité, ça s'aime bien. Merci.